Priorité santé. Claire Hédon.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Aujourd'hui, nous parlons des enjeux de la lutte contre le sida en Afrique à l'occasion des 10 ans de l'ONG Soltis qui organise justement un forum international sur le thème sida, les nouveaux défis en Afrique. 4 personnes autour de cette table pour en parler. Le docteur Louis Pizzaro qui est directeur de Soltis, le professeur Jean-Pierre Olivier de Sardan qui est socio-anthropologue dans un laboratoire nigérien en sciences sociales, le LASDEL, le laboratoire d'études et de recherche sur les dynamiques sociales et le développement local. Niamey au Niger, le professeur Eric Adé aussi, qui est chef du service de médecine interne à l'hôpital national de Niamey au Niger, et le professeur Mohamed Cissé, chef du service de dermatologie MST du CHU de Donka à Conakry en Guinée. Docteur Louis Pizzaro, vous vouliez réagir à cette question des systèmes de santé et des problèmes que rencontrent les systèmes de santé, entre autres sur la prise en charge par exemple de la grossesse et en plus du sida pour la prévention de la transmission mère-enfant.
Oui, surtout de revenir peut-être sur une question aujourd'hui qui nous est souvent posée dans les pays d'Afrique de l'Ouest et Afrique centrale, qui est la place que le VIH-Sida doit avoir aujourd'hui dans les programmes de renforcement du système de santé. Beaucoup de gens disent, voilà, il y a d'autres maladies,
le
paludisme,
le
diarrhées, il n'y a pas que le sida.
Le diabète, les maladies cardiovasculaires, je le répète tout le temps, priorité santé, nous avons aujourd'hui plus d'appels d'auditeurs quand on parle de diabète et de maladies cardiovasculaires que quand on parle de sida et de palud. Hein.
Tout à fait. Alors, sans vouloir, l'idée n'est pas de choisir une maladie par rapport aux autres. Dans un monde idéal, il faudrait pouvoir être capable d'attaquer toutes ces maladies à la fois. Il y a un rapport qui est intéressant de partager avec les auditeurs, qui s'appelle le rapport sur le poids des maladies, qui est fait par l'Université de Washington à Seattle. En anglais, on appelle ça le Global Burden of Disease, qui vient d'être publié et qui fait un classement des différentes pathologies, à la fois les pathologies infectieuses, les pathologies traumatismes de la route, accidents, et les maladies non transmissibles, comme le diabète ou les maladies cardiovasculaires, et qui classe pour l'Afrique subsaharienne selon le poids que ces maladies-là ont dans la société. C'est-à-dire qu'on va regarder le nombre d'années en bonne santé qui sont perdues à cause de ces maladies-là. Aujourd'hui, le VIH en Afrique subsaharienne est quand même la deuxième maladie après le paludisme. Ils sont assez proches l'un et l'autre, qui ont le plus fort poids pour la société. Et même dans des pays d'Afrique de l'Ouest, par exemple, je prends le cas de la Sierra Leone, où le VIH-Sida va être le 7e en ordre de grandeur, donc on va se dire, oui, tiens, c'est pas le plus important. Ce qu'on voit, c'est que les 6 autres, les diarrhées, le paludisme, sont en train de reculer. On est en train d'avancer, on est en train d'avoir des bons résultats de ce côté-là, ce qui est une bonne chose. Par contre, ces 15 dernières années, le VIH, au contraire, son poids dans la société a augmenté de 200%, ce qui est évidemment
malgré
considérable.
Malgré l'arrivée des antirétroviraux.
Malgré l'arrivée des antirétroviraux, comme vous le disiez tout à l'heure, malheureusement, les pays d'Afrique de l'Ouest et centrale, les pays francophones, pour le dire ainsi, sont quand même ceux pour lesquels la couverture antirétrovirale aujourd'hui est la moins bonne, ceux où même les chiffres de 50% sont souvent des chiffres optimistes. C'est plutôt inférieur à ça. Et avec les nouvelles recommandations que l'OMS vient de publier, les besoins vont être encore plus importants. Donc, certes, il ne faut pas s'occuper que du VIH. Il y a d'autres pathologies qui sont importantes, mais il faut voir aussi ça dans la dynamique des années à venir. Et le poids que le VIH a pour la société ne cesse de croître et donc justifie une mobilisation très importante.
Avant de donner la parole au professeur Adé aussi, au professeur Cissé sur la situation dans leur pays, au Niger et en Guinée-Conakry, juste une question sur ce que vous venez de dire sur la différence entre l'Afrique francophone et l'Afrique anglophone. On a effectivement le sentiment, de façon générale en santé, mais sur le sida en particulier, que l'Afrique anglophone avance plus vite que l'Afrique francophone. Pourquoi ?
Je pense qu'il faut... Bon, c'est toujours
on dit
difficile
à chaque fois qu'il faut mesurer, mais bon...
Non, tout à fait. Il est difficile de généraliser parce qu'il y a des bons élèves, en quelque sorte, d'un côté comme de l'autre, et des mauvais élèves d'un côté comme de l'autre. Mais disons que je pense que la richesse des nations n'est pas la même. Aujourd'hui, quand vous prenez le Botswana, la Namibie, l'Afrique du Sud, évidemment, c'est des pays qui ont un taux de croissance économique, développement économique qui est quand même supérieur, et on sait que ça a un impact, qui sont capables, eux, avec des moyens propres, de faire face à ça. Il faut faire attention aussi, souvent on parle de pourcentage. C'est pas la même chose, un pays où, par exemple, il y a 20% de personnes infectées sur le VIH, mais avec une population de seulement quelques millions, de qu'un pays comme le Nigeria, par exemple, qui est un pays à 100 et quelques millions d'habitants, où on va dire, oui, mais il y a seulement 2 ou 3 % de séroprévalence, mais ça veut dire énormément de patients malades, hein. En valeur absolue. Donc, il faut faire cette différence-là aussi. Il faut aussi compter sur le fait que les Américains, avec leur programme PEPFAR, se sont fortement engagés dans les pays anglophones, ce qui n'était pas le cas des pays francophones. Donc, ces pays anglophones ont bénéficié à la fois du Fonds mondial et à la fois du PEPFAR, ce qui aussi rajoute à ça.
Et puis, je pense. En parallèle, la France a beaucoup baissé son aide bilatérale. Elle s'est concentrée sur l'aide multilatérale, mais a baissé son aide bilatérale.
Tout à fait. Mais on peut dire d'une certaine façon que grâce, disons, à l'argent que la France a mis sur le Fonds mondial, a permis que les pays francophones puissent bénéficier de ça. Mais ça joue aussi, je pense que ça joue sur l'accompagnement. Les universités américaines ou anglaises, par exemple, voire des pays nordiques, ont beaucoup aidé, collaboré avec des chercheurs africains dans les pays d'Afrique australe ou d'Afrique de l'Est. Et je pense que nous, on a vraiment à essayer de développer encore plus nos partenariats d'appui technique, d'expertise et de projets de recherche avec les pays d'Afrique francophone. Ça va sûrement aussi contribuer.
Professeur Cissé, quelles sont les difficultés que vous rencontrez encore dans la prise en charge du sida en Guinée-Conakry ? Alors, vous nous l'avez dit, hein, l'accès aux examens biologiques, vous avez toujours des problèmes sur la charge virale, mais quelles sont les autres difficultés que vous rencontrez ?
Bon, il existe d'autres difficultés, mais c'est vrai, il faut reconnaître quand même qu'il y a eu beaucoup d'améliorations en matière de prise en charge des personnes vivant avec le VIH. Et lui parlait des chiffres tout à l'heure concernant l'Afrique francophone. C'est vrai, en matière de couverture, même si on estime que c'est pas de la réalité, on est au-dessus quand même de 50% en matière de couverture.
En Guinée-Conakry.
En Guinée-Conakry. Mm-hmm. Deuxième élément positif, c'est que on a l'impression, en tout cas, en fonction des chiffres que nous avons aujourd'hui, que l'épidémie se stabilise parce que l'EDS qui a été réalisé l'année dernière est de 1,7%. Mais ceci dit, naturellement, les difficultés existent. Il y a un moment où on avait des problèmes d'approvisionnement et une fois de plus, Solti s'est intervenu en Guinée pour nous appuyer parce que le gros problème, par exemple, en matière d'approvisionnement, c'était la quantification des besoins. Et cette quantification des besoins n'était pas faite de façon réaliste et correcte, et ce qui faisait que chaque fois, on avait des ruptures d'ARV, mais depuis ces deux dernières années quand même, il n'y a plus de ruptures d'ARV.
C'est terminé, il n'y a plus de rupture maintenant.
En tout cas, ces deux dernières années, on n'a pas pour le moment de rupture d'ARV, et pour cela, c'est le lieu de féliciter Solti, ce qui s'est impliqué. Parce que je voudrais insister quand même sur un élément. Il y a beaucoup d'ONG qui interviennent en Afrique, mais l'accompagnement des structures étatiques est extrêmement important. Et je pense que c'est sur ce plan que Solti s'est investi au niveau du département de la santé. Parce qu'il y a des ONG qui arrivent, qui prennent des structures pour accompagner des structures. Or, c'est important d'accompagner globalement tout le système pour pouvoir aller de l'avant. Et donc, ça, c'était une difficulté, mais qui aujourd'hui, en tout cas, on estime que le problème est complètement résolu. Mais le problème global aujourd'hui, c'est le renforcement de la capacité des acteurs sur le terrain. Et les formations sont en train d'être faites ou de recyclage sont en train d'être faites. Mais aussi, il y a ce problème de suivi biologique des patients. Et je pense que d'ici mi-2014, si en tout cas les prévisions qui ont été affichées sont réalisées, ces difficultés-là vont être atténuées.
Et puis j'imagine qu'au début, par exemple, cet examen de charge virale, il va être disponible que dans la capitale. Ça va être ça aussi dans un premier temps?
Oui, ça va être disponible que dans la capitale. Mais aujourd'hui, quand même, des études ont démontré qu'on peut, à partir, par exemple, du DBS, c'est-à-dire du papier buvard, faire des prélèvements dans les structures éloignées pour pouvoir réaliser les examens dans
et les envoyer
et envoyer les résultats. Je pense que des études ont démontré cela et c'est ça notre objectif.
Professeur Éric Adé aussi, quelles sont les difficultés que vous continuez à rencontrer dans la prise en charge du sida à Niamey au Niger ?
Oui. Voilà. L'infection à VIH, c'est une infection parmi les infections qui est un peu particulière, parce qu'elle est considérée maintenant comme une maladie chronique. Et donc, c'est ça qui a permis aussi de mettre à rude épreuve notre système, enfin, a permis de faire voir les problèmes donc, de certains systèmes de santé dans nos pays. Alors, il y a eu des programmes qui sont nés pour la prise en charge des patients vivant avec le VIH, avec l'apport de beaucoup d'ONG et des financements extérieurs, ça a créé, par exemple, une difficulté déjà par rapport aux autres infections. Mais concernant le VIH lui-même, c'est un peu comme ce que vient de dire mon prédécesseur, le professeur Mohamed, c'est qu'il y a des problèmes pour la gestion des maladies au long cours. Il y a eu d'abord des problèmes d'approvisionnement en médicaments, Et là, apparemment, c'est en train de se régler un peu partout. Mais il y a eu aussi...
Il n'y a plus de rupture, là, en ce moment,
au Niger. Il n'y a plus de rupture en médicaments. Mais il y a d'autres types d'approvisionnement. Il y a les réactifs et les consommables. Là aussi, ce n'est pas toujours correctement suivi. Il n'y a pas toujours un bon approvisionnement. Un autre problème, c'est la maintenance des appareils. Parce que vous savez qu'il y a des examens qui sont spécifiques à la prise en charge. Le professeur Mohamed a parlé de CD4 et de la charge virale. Là, ce sont des appareils en fait qui doivent être qui doivent subir des révisions de façon régulière. Et là, on se retrouve des fois avec des pannes d'appareils parce que la maintenance n'a pas pu se faire et tout ça. Donc, c'est important aussi de mettre en place un plan donc de maintenance.
Et ça veut dire que les gens ne sont pas forcément formés à cette maintenance?
Non, pas. Il y a plusieurs types de maintenance. Il y a certaines maintenances de bas niveau où le laboratoire est habilité à le faire, mais des fois, il faut faire venir un technicien qu'on ne retrouve pas obligatoirement sur place. Donc là, c'est quand même aussi un problème. Un autre problème peut-être un peu propre au Niger, c'est la mobilité du personnel. Mais je crois que... Parce qu'en fait, tout le monde n'est pas formé à la prise en charge, mais maintenant, c'est en train d'être corrigé bientôt.
Mobilité du personnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens sont formés, une fois qu'ils sont formés, ils partent ailleurs?
Voilà, on peut les affecter ailleurs, et donc, du coup, tout est à reprendre dans une zone bien déterminée. Une dernière difficulté, à mon sens, dans la prise en charge des patients vivant avec le VIH, je vous ai dit que c'est une maladie chronique, il y a aussi des risques de perdu de vue de patients. Et donc, ce sont des patients qui doivent prendre des médicaments à vie. À un certain moment, quand ils se sentent bien, ils peuvent arrêter de venir. Et donc, c'est important. Et c'est là où interviennent aussi beaucoup d'ONG qui nous aident à rechercher ces perdus de vue. Et je crois que l'ASDEL a dû travailler dessus. Quels sont les déterminants, en fait, qui favorisent ces perdus de vue? Et je pense que c'est un problème très important.
Priorité santé sur RFI.
Aujourd'hui, nous parlons de la lutte contre le sida en Afrique à l'occasion des 10 ans de l'ONG Soltis. Jean-Pierre-Olivier de Sardan, vous qui êtes socio-anthropologue, justement, qu'est-ce que vous nous avez à nous dire sur, entre guillemets, ces perdus de vue dont nous parlait Eric Adé aussi, c'est-à-dire ces gens qui finalement, d'un seul coup, ont l'impression qu'ils vont mieux et qu'ils peuvent arrêter les traitements?
Bon, c'est pas la seule raison. Nous avons travaillé surtout, dans notre équipe, le docteur Mahaman Moa a particulièrement travaillé sur les perdus de vue dans le cadre de la PTME. Et c'est très compliqué. D'abord, il est très difficile de les retrouver parce que justement, ils sont perdus de vue et que de fait, la
coup, on
recherche.
On ne sait pas trop pourquoi ils sont parvenus, c'est ça.
Ouais, voilà. Et donc la recherche a été une entreprise extrêmement compliquée, digne d'un travail de détective privé pour retrouver ces fameux perdus de vue. Il en a retrouvé là-dessus, et on s'aperçoit que les causes de cette perte de vue sont très complexes. Bien sûr, il y a des causes qui viennent, disons, du côté de la société. Il peut y avoir des problèmes liés aux difficultés conjugales de l'annonce. Dans le cas de la PTME, il est clair que le problème, c'est qu'on a tout d'un coup, on annonce un statut séropositif à une femme en pleine santé, sans que c'est à elle d'après expliquer
qu'est-ce
ça au
fait,
mari.
Qu'est-ce qu'elle dit à son mari?
Et c'est en général à elle qu'on impute la responsabilité, bien sûr, alors que ça ne veut rien dire, etc., etc. Mais il y a beaucoup d'autres. Alors, il y a des causes qui sont aussi liées aux difficultés de déplacement. Et là, on commence déjà à rencontrer des causes qui viennent plutôt du côté du système de santé lui-même. Et ça, c'est pas que pour la PTME. Ce qu'on pourrait appeler l'absentéisme médical, qui est pas la faute d'ailleurs des médecins, c'est pas parce qu'ils vont se promener en vacances, mais le fait que les médecins sont... C'est un autre aspect de ce problème de la rotation, qui est que les médecins sont sans arrêt appelés à partir pour des séminaires, des formations, des stages, des réunions. Lorsque vous avez peu de médecins prescripteurs, que quelqu'un fait 40 km pour venir voir le médecin prescripteur et qu'on lui dit « Ah, il a voyagé », la phrase classique terrible, et ben voilà. Donc on a
pas il mal. Il ne de... revient pas. pas, la personne ne revient pas.
C'est-à-dire qu'il n'est pas remplaçable. Ouais. Alors, si, parfois, il peut y avoir des améliorations dans le cas de...
Non, mais je parlais du patient. Le patient qui est venu une première fois, qui a fait 40 km, il n'a pas eu son
traitement. Oui, et puis si c'est en plus une femme de la PTME qui a des obligations, disons, dans son foyer productif, etc., au bout de 3 jours, 4 jours, elle repart si elle n'est pas attendue, ou puis elle ne revient pas, oui. Donc ça, c'est un des grands problèmes. Il y a quand même d'autres problèmes, parfois. Disons que, bien souvent, les fameux counseling ou les fameuses causeries, disons, d'éducation auprès des femmes ne sont pas bien faites ou sont pas faites ou sont faites dans des conditions absolument catastrophiques. Si vous voyez ce que c'est qu'une salle de une salle d'attente, vous avez 40 femmes qui sont en train d'attendre, une circulation permanente des brouhahas, et puis une stagiaire qui est en train de faire un cours où il y a 5 femmes qui écoutent à peu près pendant que les autres parlent. On peut pas dire que les messages passent dans des conditions pareilles. Donc disons, c'est toujours un truc multifactoriel, c'est pas du tout, mais c'est extrêmement difficile. Et actuellement, il n'y a pas vraiment, donc par exemple chez nous au Niger, on n'a pas de structure qui récupère vraiment ces perdus de vue. Il y a eu différentes tentatives, mais grosso modo, disons qu'elles ont à peu près, elles ont pour l'essentiel échoué. Ça nécessiterait beaucoup plus de moyens, à la fois humains, financiers, pour rechercher ces fameux perdus de vue. Il y a aussi d'autres choses. Il y a aussi bien sûr des facteurs tels que des guérisseurs qui font on a eu le cas au Niger de publicité officielle, enfin pas de publicité dans des radios officielles sur la guérison, que on a essayé de faire interdire les uns et les autres. Pour le moment,
vous avez du mal.
On a du mal, c'est-à-dire, ils sont interdits pendant quelques temps, et puis on les voit réapparaître 2 mois, 3 mois après, on voit réapparaître que tel, etc.
On peut vous dire qu'on a certains qui se glissent sur nos pages Facebook et qu'on a toute la peine du monde à éliminer, qui font aussi la même chose. Professeur Cissé, est-ce qu'il n'y a pas aussi, quand j'entends Jean-Pierre Olivier de Sardan parler, un problème où les médecins en Afrique ne passent pas suffisamment de temps avec leurs patients à leur expliquer la maladie? Est-ce que c'est dû au fait que vous n'êtes pas assez nombreux, peut-être?
Oui, c'est vrai, il y a ce fait, mais aussi à la charge du travail qui est là. Si vous avez une file active de 30, 40 patients qui attendent, ça devient difficile de prendre...
De passer une heure avec chacun.
Une heure avec chacun. Mais au-delà de cela, je pense qu'il y a un autre aspect qu'il faudrait noter par rapport aux médecins. De plus en plus aussi, certains médecins formés en la prise en charge sont repris par les ONG et qui se retrouvent, par exemple, administrateurs de bureau, alors qu'au départ, il a été formé pour la prescription des antirétroviraux. Et cela arrive fréquemment et il faut comprendre...
Et parce que l'ONG le paye beaucoup plus que ce que va lui payer le service public de santé.
Voilà, justement, c'est ce que je voulais dire, parce que l'ONG paye beaucoup plus. Et donc, il y a ce problème aussi là en Afrique qui pose d'énormes difficultés et qui fait que les médecins sont souvent partis, ou en tout cas, ceux qui ont été formés à la prise en charge sont partis.
Louis Pizarro, un mot aussi sur les populations en grande difficulté, en grande précarité ou exclues, sur lesquelles c'est encore plus compliqué.
Tout à fait. Je pense que sur les pays d'Afrique francophone, on parlait tout à l'heure de leurs particularités. C'est vrai qu'on est sur des épidémies aujourd'hui de VIH-SIDA qui sont à, on va dire, entre 1 et 3-4 %, donc qui sont moins importantes que celles d'Afrique australe, mais qui sont très concentrées parmi certaines populations, qu'on appelle les populations clés. Ils vont être soit des populations, par exemple, qui sont à risque de pouvoir contracter le VIH, ça peut être les professionnels de sexe, par exemple, qui vont avoir des fortes séroprévalences, soit des personnes qu'on appelle vulnérables. Ça peut être, par exemple, les jeunes filles, souvent mariées trop tôt. Ça peut être les personnes qui sont en prison, car vont être soumises parfois à un risque, évidemment, très important. Donc aujourd'hui, on a peu étudié l'épidémie dans ces populations-là. C'est un vrai enjeu sur lequel nous, on espère pouvoir vraiment avancer avec nos partenaires sur le terrain. Et je voudrais dire là-dessus aussi, c'est quelque chose qui, évidemment, est souvent tabou dans les sociétés dans lesquelles on intervient. Il faut saluer là, je pense, le courage aujourd'hui d'une société civile africaine dans les pays francophones qui est vraiment en train de prendre de l'ampleur. Il y a de plus en plus d'associations qui se créent, soit de personnes vivant avec le VIH, soit de personnes, disons, qui sont sensibilisées à la question. Dans tous les pays aujourd'hui, ça va être au Niger, en Guinée, enfin vraiment partout, on voit des réseaux de personnes vivant avec le VIH, appuyés ici en France aussi par nos collègues de Aide, de SIDAction, de Solidarité SIDA ou de ACT-UP, qui mènent, je pense, des projets vis-à-vis de ces populations tout à fait exemplaires. Donc c'est vraiment un sujet d'avenir.
Je voudrais qu'on aborde une dernière question dans les 3 minutes qui nous restent, que vous allez aussi aborder pendant cette conférence internationale. C'est quelle sera la place du VIH-SIDA dans l'agenda politique de l'aide au développement? L'International Civil Society Support vient de rendre un rapport sur le fait qu'on ne parviendra pas à inverser la courbe de l'épidémie si on ne s'en donne pas plus de moyens.
Tout à fait. Alors, il y a donc, comme vous le disiez tout à l'heure, le choix des objectifs du millénaire après 2015. Nous avions très peur que même la santé ne soit pas prise en compte. Aujourd'hui, ça devrait être le cas, mais nous voudrions évidemment que les trois objectifs du millénaire, qui étaient la santé des mères, des enfants et les trois grosses pandémies, sida, malaria et tuberculose, soient prises en charge dans ces nouveaux objectifs. Ça, c'est une chose. La deuxième point, c'est avec quels moyens. Il y a eu une étude qui a été faite par ONU-SIDA, OMS, Fonds mondial, qui montre qu'il faudrait 87 milliards de dollars dans les trois prochaines années pour pouvoir inverser ces trois pandémies, et qu'on peut le faire. Malheureusement, aujourd'hui, on voit qu'il manque 26 milliards de dollars. Si on part de l'hypothèse que les pays vont, eux, accroître leur investissement public, et que les autres partenaires internationaux qui aujourd'hui collaborent vont rester à un niveau constant. Sur ces 26 milliards-là, on espère tous que le Fonds mondial aura au moins 15 milliards, et non pas 11 comme aujourd'hui. Donc c'est un vrai enjeu. Mais c'est un enjeu dans lequel, il faut le voir, c'est à double mesure. C'est-à-dire qu'on voudrait ces 15 milliards-là comme minimum, mais même si on a ces 15 milliards-là pour le Fonds mondial, il restera toujours un gap. Donc ce 15 milliards-là, c'est vraiment l'étape qu'on s'est donnée pour le Fonds mondial, et ça va se faire là dans les semaines qui viennent, mais c'est vraiment le minimum du minimum. Sinon, ça ne sera pas le cas. Et qu'est-ce qui va se passer si on n'en arrive pas là? C'est qu'on va rester sur une épidémie stable dans laquelle il y aura toujours des patients qui seront infectés.
Et au bout du compte, ça va nous coûter plus cher.
Des patients qu'il faudra traiter, qui vont coûter cher à la société, parce que ces traitements-là aujourd'hui sont chers. Alors que si on fait un investissement plus fort aujourd'hui, on sait que dans les années qui viennent, on va recueillir les fruits de cet investissement-là, car on aura réussi à faire baisser les nouvelles infections, le nombre de patients à traiter, et on pourra envisager en effet un monde sans sida.
Cette crise économique, ce risque de baisse de l'aide, et on a vu certains pays où elle avait commencé, est-ce que vous la sentez dans vos pays respectifs, professeur Cissé, à Conakry en Guinée, est-ce que vous le sentez? Et puis on verra après au Niger.
Oui, c'est quelque chose qui se ressent dans tous les pays, compte tenu du fait qu'il y a quelques années, c'est vrai que c'est maintenant, comme lui a dit, que nos pays commencent à donner de l'argent pour lutter contre le VIH-SIDA, parce qu'il y a jusqu'à deux ans, la plupart de ces pays, c'est l'aide extérieure, plus de 90%, certains disent même 98%, c'est l'aide extérieure qui permettait d'assurer la prise en charge des personnes vivant avec le VIH. Donc si cette aide baisse, naturellement, ça peut avoir une conséquence sur...
Mais est-ce que vous avez déjà senti une baisse ou pas encore?
Bon, c'est vrai, vous savez, nous avons soumissionné pour le 10e round, par exemple. On a fait un proposal
du
Fonds mondial. Et ce proposal, c'était un montant que nous avons proposé, mais compte tenu du fait qu'il n'y a pas suffisamment d'argent, le Fonds mondial était obligé de revoir. Et on
et vous
obligé,
a donné moins.
Il nous a donné moins.
Et donc vous êtes obligé de revoir aussi vos ambitions.
Tout à fait.
Professeur Eric Adé aussi, qu'en est-il au Niger?
Oui, c'est sûr que avec la crise financière, les apports ont diminué et ça s'est ressenti quand même aussi au niveau du Niger. Comme il a dit, par exemple, pour les activités du Fonds mondial, ce qui a été quand même privilégié, c'est quand même pouvoir continuer la prise en charge des patients qui sont déjà sous traitement. Mais il y a d'autres activités qui sont très importante aussi, qu'il va falloir chercher des fonds pour pouvoir mener. Et donc, c'est en ce sens que là, on a senti que la crise a eu un effet sur la prise en charge des patients infectés.
Qu'en est-il justement de l'accès au traitement de deuxième ligne et de troisième ligne en cas de résistance? On sait qu'il faut des traitements un peu plus compliqués, qui coûtent plus cher. Est-ce que cet accès-là, il est possible au Niger?
Bon, pour le traitement de deuxième ligne, cet accès est possible au niveau du Niger. Et c'est vrai qu'on n'a pas encore énormément de patients qui sont donc sur cette deuxième ligne-là, du fait de la faiblesse de la séroprévalence. Donc, n'avons pas beaucoup de patients donc en deuxième ligne.
Et troisième ligne?
Troisième ligne, en fait, il n'y a pas vraiment de troisième ligne à proprement parler, mais on a des patients qui sont en échec de deuxième ligne. D'accord, où il faut adapter le traitement en fonction de l'histoire du patient.
Et là, vous avez ce qu'il faut ou pas?
Non. Là, par contre, ça nous manque énormément. Il va falloir trouver de nouvelles molécules pour pouvoir prendre en charge.
Professeur Cissé, qu'en est-il en Guinée-Conakry? Louis Pizarro, vous vouliez...
Non, je voulais juste dire que pour pouvoir passer en deuxième ou en troisième ligne, il faut aussi avoir cet examen de charge virale. Oui, car c'est lui seul qui permet de dire aujourd'hui si on est en échec de traitement ou pas.
Donc
c'est
on, des en revient au début de, on en revient au début de l'émission. Voilà. D'où l'intérêt de cette charge virale. Et c'est que comme ça qu'on saura quels sont les patients qui en ont besoin. Professeur Cissé...
Oui, en fait, c'est ce que je voulais ajouter. Ce qui fait que le traitement de deuxième ligne est disponible, mais pour le traitement de troisième ligne, même si on commence à prévoir dans la programmation des médicaments pour le traitement de troisième ligne, mais s'il n'y a pas de charge virale, c'est difficile de se déterminer.
On arrive à la fin de cette émission. Peut-être un mot de conclusion. Chacun, on va faire un tour de table. Louis Pizarro.
Non, moi je voudrais qu'on reste quand même sur une image positive. C'est quand même, si on regarde dans les 10 ans à venir, il faut quand même être porteur d'espoir. On a vu que les nombres de nouvelles infections, nombre de décès étaient en train de diminuer en Afrique subsaharienne. Donc il y a quand même là un point qu'il faut garder en tête. On a vu une société civile qui est en train aussi de devenir de plus en plus forte dans les pays. Il y a une expertise aussi technique, et nous le voyons ici avec nos deux collègues qui sont autour de la table, mais de façon large, une expertise africaine qui se développe, et pas seulement en médecine, mais aussi en sciences sociales. Ça, c'est important. Et le VIH commence de plus en plus à être intégré dans les systèmes de santé. Donc, je pense qu'il y a quand même des bases suffisamment solides pour être optimiste sur les 10 années qui viennent.
Jean-Pierre Olivier de Sardan, un mot de conclusion.
Je pense que cette importance des organisations de société civile, associations de malades, etc., il est assez important qu'ils se battent pas simplement pour développer, disons, la qualité propre au service SIDA, mais qu'ils se battent plus généralement pour renforcer la qualité du système de santé lui-même et pas simplement...
Et ça servira pour les autres maladies.
Et ça servira pour les autres maladies. Et je pense que c'est un enjeu extrêmement important... pour l'avenir.
Éric Adé aussi.
En fait, je reviens à peu près sur les mêmes mots que Monsieur de Sardin. En fait, l'infection à VIH a fortement éprouvé notre système de santé et qui a su réagir. Et je pense que cette réaction va servir aussi aux autres maladies.
Professeur Cissé.
Oui, moi aussi, je vais intervenir beaucoup plus sur le rôle de la société civile actuellement, surtout dans mon pays où on a une autre image de l'infection à VIH avec l'appui des personnes vivant avec le VIH.
Merci beaucoup à tous les quatre. Demain, on va parler d'un tout autre sujet. On parlera de la prostate et vous pouvez dès maintenant nous faire part de vos questions, soit par téléphone au 33 1 84 22 75 deux fois ou bien sur les réseaux sociaux. Merci à toute l'équipe de Priorité Santé. Bon anniversaire à Soltis et à demain.